10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Ah, et c'est un kiff, hein, de venir tous les matins, venir parler des informés, les informés, jusqu'à 10, 11h précisément. 10h, 11h, on commente, on analyse et on décrypte l'actualité. Et vous le savez, ici même, au sommaire de cette émission, eh bien, nous allons commencer. Alors, avec les débatteurs, influenceurs, mais également aussi, je vais vous ouvrir l'antenne parce que je voudrais vous entendre au 0153 48 3000. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que les jeunes de 15 à 24 ans, paraît-il, sont de moins en moins heureux en Europe et aux États-Unis. Tiens, ça mérite une petite clochette. Pourquoi? Parce que vous savez quoi? Autant il y a quelques années encore, il y a encore 10 ans, les jeunes de 15-24 ans, ils demandaient à aller aux États-Unis et en Europe. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Alors, où ils vont? Bah, à votre avis, je vous laisse deviner. On vous donnera la réponse dans une poignée de minutes. 0153 48 3000. Laisserez-vous vos enfants ou vous-même, si vous êtes jeune, quel pays choisissez-vous pour aller, évidemment, tenter l'aventure? On en parle ici même. Vous le savez qu'il y a des pays, des continents qui sont en vogue. Marseille, au lendemain de la venue de Macron, les trafiquants de drogue, et bien ça y est, ils sont déjà de retour à la Castellane. Comme quoi, voilà, il ne s'est rien passé. Chacun reprend sa place. C'est ce qu'on dit, clochette. Vous défendez la racaille, ça chauffe entre Louis Boyard et Barbara Lefebvre dans les grandes gueules. On essaiera de trouver l'extrait tout à l'heure parce que Faudil, c'est un artiste magicien. Et oui, c'est comme ça. Donc on va essayer de trouver les propos précisément. Oui, on va les diffuser, pardon, parce que Louis Boyard, pourquoi je dis ça chauffe? Ça chauffe parce que c'est polémique sur polémique. C'est la semaine Louis Boyard, c'est même le feuilleton Louis Boyard. Poutine qui agite la menace nucléaire pour faire peur. 61% des Français le considèrent comme une menace pour la France. Et vous, vous en pensez quoi? Y compris les débatteurs. Voilà le menu que je vous propose. Et puis le retour, le grand retour de Pascal Boniface, le patron de l'Iris, qui sera avec nous tout à l'heure pour nous livrer son billet d'humeur avec le cessez-le-feu, les USA et puis tout ça. Voilà, vous avez vu, hein, il a un regard très fin sur la géopolitique. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et plus que jamais
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face, vous savez quoi? C'est avec les débatteurs qui sont prêts ici à en découdre avec le micro. Voilà. Gamal Abina, bonjour.
Bonjour, vous allez
comment
bien?
Comment vas-tu? Ça va? Comment allez-vous? Tout bah, va bien?
Comme un jour de Ramadan le matin avec les yeux qui collent.
Avec ça, exactement. Mouvement, porte-parole du mouvement MDC, Hassan Ben Barek, bonjour. Comment bonjour. Ça va?
Ça va, très bien.
Tout va bien?
Ouais, ça va bien. Ramadan va bien, tout ouais. va bien.
Engagé toujours dans les associations, hein?
Oui, toujours un petit peu.
Ouais, absolument. Le conseiller régional, il est avec nous, et le co-porte-parole d'Europe au centre, écologie au centre. Non, écologie au centre, je sais bien, j'ai reçu votre patron. C'est Philippe Nadji-Bouyeki, bonjour.
Bonjour Adil, bonjour les auditeurs et auditrices, ça va très bien.
Tout va bien?
Ouais, moi je suis un.
Impressionnant aujourd'hui, hein, la classe toujours.
Comme d'hab.
Hein. Cravate, comme d'hab. Les petits trucs. Hein.
Je fais partie du top 5, je sais pas si tu as vu, des hommes les plus heureux du monde.
Toujours en costume, c'est pas. À la limite, c'est
très étonnant. C'est toujours.
Non, mais mettons, en plus, surtout que j'ai perdu du poids, je peux remettre les costumes, je me sens mieux dans son corps, mieux dans sa tête, et je fais partie du top 5 des hommes les plus heureux du monde.
Top 5, carrément.
Ouais.
Veulent pas.
C'est bien.
Il y a Dalai Lama juste avant moi, mais.
C'est bien que c'est vous-même qui avez défini le top 5.
Bah ouais, il faut se définir.
S'auto-définir.
Des choses
j'aime bien,
positives.
J'adore. Vous avez raison, il faut. Hein. Messieurs, tout de suite, nous allons commencer, vous savez quoi, avec ce sujet concernant les 15-24 ans. Et je voudrais entendre les auditeurs. Je vais ouvrir l'antenne au 01-53-48-3000. Alors pourquoi les jeunes aujourd'hui, ça pose problème quand on est entre 15 et 24 ans? Vous savez quoi, aujourd'hui, il n'y a plus de bonheur. La vérité, il n'y a plus de bonheur en Europe, il n'y a plus de bonheur aux États-Unis. Et ils ne se disent pas du tout heureux, d'accord, que l'étaient évidemment leurs aînés. Les aînés, c'est qui? C'est leurs parents et les grands-parents. Et les experts, vous savez quoi? Aujourd'hui, ils alertent sur cette véritable crise, tension, de la quarantaine. Alors, beaucoup de questions s'opposent. Hein. Est-ce que ce n'est pas l'isolement? Est-ce que ce n'est pas les réseaux sociaux? Est-ce qu'on respire plus bonheur à cause des réseaux sociaux? Est-ce que cette santé mentale est liée aussi parce que ce nouveau monde de l'intelligence artificielle bouscule les codes? Que peut-on dire, évidemment? Et après, on parlera des pays qui attirent. Gamal Abina. Ça m'a attiré mon attention. Hein. Ça m'inquiète. Hein.
C'est très rapidement. Il faut se rappeler quand même historiquement, d'après l'après-guerre 45, on a 30 ans qui se passent très bien, les 30 Glorieuses, avec l'espoir
de la
réussite, l'équipement des foyers, la reconstruction, la paix qui est devant nous, une tension avec la guerre froide qui reste quand même un conflit de basse intensité puisqu'il ne se fait plus en Europe, et surtout un sentiment général que tout est possible parce que la technologie, le futur, l'avenir, les étoiles, on va sur la Lune, bref, c'est ça les 30 Glorieuses. Puis après, il y a les crises qui s'installent avec le Moyen-Orient, première et seconde crise pétrolière. J'ai eu la chance de de vivre les années 70 où vraiment travailler à l'école c'était la possibilité, c'était un gage de réussite.
C'est vrai, c'était quelque chose. Hein.
Voilà. Et mais on disait si vous réussissez à l'école, vous réussissez votre vie. Ouais. Puis par la suite, malheureusement, avec le chômage de masse, ceux qui travaillent à l'école.
C'est plus le cas aujourd'hui, hein, ce que vous dites. Hein.
Oui, mais je parle de.
Vous réussissez vraiment... votre vie.
Ouais, mais ça c'était justement avec le chômage de masse, ceux qui travaillent à l'école n'étaient pas garantis de travailler tout court, mais d'avoir un emploi. Et surtout, on nous a inculqué une culture de l'échec, on peut dire, une culture d'une certaine tristesse qui s'installe au fur et à mesure, mais graduellement, hein, avec l'idée qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à réussir, mais à s'en sortir, ce qui est quand même deux choses différentes. C'est-à-dire que personne ne veut réussir sa vie, tout le monde essaie au moins de se sortir de la galère. Donc c'est vraiment psychologiquement, massivement une réalité. Ensuite, il y a évidemment les conflits, il y a les mouvements sociaux, il y a le Covid qui est passé par là, qui a eu un impact très lourd sur la psychologie
très, très
des jeunes. C'est quand même quasiment 55 jours d'enfermement total pour le monde entier. Des remises en question, le fait religieux qui recule ou qui avance pour certains. Et puis, le sentiment général que les espoirs ne sont plus en Europe parce qu'il y a une crise économique aiguë et qu'on pense qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc, la plupart des gens cherchent le bonheur ailleurs, ça a été dit par vous. Et je pense que l'ambiance générale est liée au fait qu'effectivement, le désespoir s'est installé dans la jeunesse et que ces jeunes qui sont enfermés en plus dans les réseaux sociaux, dans le virtuel, qui voient qu'ils vont être mis en concurrence par les intelligences artificielles, c'est bien à dire aussi, qui remettent en question beaucoup de leur système de vie et d'espoir, finissent par tomber dans une certaine forme de dépression. On voit qu'il y a 1 million en France, par exemple, de personnes qui sont traitées au Prozac, aux antidépresseurs. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment percevoir un monde actuel moderne avec, dans une société dégradée, une forme de perte de confiance.
Exactement. Et surtout, lorsqu'on a entre 15 et 24... Enfin bref, quand on est jeune, tout simplement, franchement, on aspire à quoi ? On aspire simplement... à la réussite.
La réussite, oui.
C'est vrai, on a envie de réussir, on a envie de faire des choses, on a envie de s'éclater, on a envie de faire de belles choses, travailler,
loger, voilà, fonder une famille.
Moi, franchement, ça m'inquiète cette histoire-là, parce que, quand même, c'est une référence, les États-Unis et l'Europe, c'était une référence. Après, on parlera des pays qui attirent le plus, qui sont en vogue aujourd'hui. Hassan Bembarek, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que la situation est grave.
C'est nos enfants aussi.
Et la situation est grave. Moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout ce que j'ai pu observer pendant plus de 40 ans, c'est surtout l'augmentation du consumérisme. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes éprouvent le besoin de consommer pour être heureux.
Ça, c'est vrai, il a raison. C'est très juste ce que vous dites.
Ça, c'est ce qui m'interpelle. Et derrière,
et le fait de consommer, aussi,
on est dans des logiques.
On travaille deux mois et paf, on se barre.
Voilà, de gagner de l'argent. Et en fin de compte, on voit bien que, en tout cas, moi, je constate que pour beaucoup de gens, l'argent passe avant beaucoup les principes.
Merci, Hassan. Il a raison. Voilà, vous mettez là, vous savez quoi ? Là où le bas blesse.
Voilà. Et donc beaucoup de jeunes se disent au fond il faut gagner de l'argent,
faut faire du fric vite
et
pour faire du fric,
il y a le miroir aux alouettes aussi, l'internet c'est quoi, qu'on peut gagner vite,
mais pour faire du fric
aujourd'hui les réseaux sociaux
même dans mon entourage personnel, ce que vous dites aux enfants, mais il faut faire des études parce que c'est important de faire des études, se former. Parce que, alors eux, ils vous répondent que non, ça ne sert pas à grand-chose, qu'on peut se débrouiller en faisant des choses sur Internet. Donc, il y a aujourd'hui, tout, je trouve que les choses vont de travers. Bon, il y a surtout aussi ce qui a beaucoup changé depuis les années 80, c'est l'émergence des réseaux sociaux.
Tout à fait.
Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui sont scotchés sur les réseaux sociaux, il y a une forme d'addiction. Mmh. Et des chercheurs ont fait de récentes études. En disant qu'au fond, aujourd'hui, on est à titre de comparaison au même point qu'au moment où on avait commencé à mettre l'automobile. C'est-à-dire qu'il faut il faut régulariser tout ça. Parce que le problème, il faut mettre des garde-fous.
Réguler plutôt.
Et réguler, mettre des garde-fous parce que la situation est grave, très grave. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes de 13, 14 ans, 15 ans qui sont totalement scotchés sur les réseaux sociaux. Vous avez beau passer derrière pour leur expliquer qu'il faut lever le pied, qu'il faut travailler, qu'il faut acquérir des connaissances via l'école, ça passe pas.
Justement, Hassan, j'ai envie juste très court. Hein. Il y a une étude qui a été faite par rapport au sentiment de bien-être qui est lié à une addiction qui est réelle, c'est celle des j'aime. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent quasiment au quotidien le besoin d'être aimé virtuellement avec des petits pouces sur les réseaux, et ça crée clairement un sentiment de bien-être, de plénitude qui est provoqué par, on connaît le mécanisme, et à chaque fois qu'ils prennent ça, c'est comme s'ils prenaient de l'endorphine, quoi. C'est vraiment une grosse poussée d'adrénaline qui les pousse à être complètement enfermés dans cette logique d'être aimé virtuellement et de ne plus connaître le réel.
C'est vrai.
Alors, dans le même registre.
Donc, s'isoler.
Oui, mais.
L'isolement.
Mais il y a certes, il y a l'histoire des réseaux sociaux, mais il y a aussi.
Il y a beaucoup les réseaux sociaux. Ils y sont pour beaucoup.
Oui, d'accord.
Vous n'avez pas regardé tous ces gamins-là qui sont collés, scotchés. Ils sont à table, ils sont scotchés sur leur portable, ils sont avec leur portable, ils sont scotchés sur leur portable. Il y a une grosse addiction, effectivement.
Il y a certes cette question des réseaux sociaux, mais il y a aussi d'autres choses derrière qui participent à cette dégradation du bien-être chez ces jeunes. C'est l'explosion à la fois des maladies mentales,
des
troubles mentaux, je dirais, et surtout l'addiction via l'absorption de substances. Et bon, de toute façon, on va aborder cette question.
Oui, absolument. Dans le deuxième volet. Philippe Nadjibouriaki, alors justement, parlons-en, parce que aujourd'hui, on parle d'isolement, on parle des réseaux sociaux, on parle de ces ados, on parle de cette santé mentale que donc faisait référence Hassan Benbarek. Clairement, c'est fini, ils sont plus heureux.
Ils sont pas heureux parce que quand tu peux pas te projeter dans le futur, forcément ça limite, ça te met dans un corridor, voire dans une impasse. Et quand tu es dans une impasse, ben, tu peux pas voir l'horizon. Quand tu vois pas l'horizon, tu vois pas le ciel qui est bleu, qui est clair, et donc tu déprimes. Et puis il y a l'effet d'entraînement de masse, de morosité. Les choses ont bien été résumées. Ils sont dans une vision virtuelle, des échanges lointains, assez chronophages aussi. Les réseaux sociaux, je le vois, moi, ne serait-ce qu'en tant qu'adulte, je passe beaucoup de temps dessus parce que nous, on communique énormément, mais il faut aussi regarder ce que les autres font. Et puis, si tu vois que autour de toi, ce qui renvoie, c'est que du négatif, forcément, ça déteint. C'est une spirale compliquée à endiguer. Parce qu'on est dedans, on a les œillères, et puis il y a rupture de communication avec le tissu familial, surtout quand t'es ado.
Et les réseaux sociaux, ils y sont pour beaucoup aussi. Hein.
Mais bien sûr.
Les amis.
Bien sûr, c'est l'effet boule de neige.
Ouais.
Après, il y a la sociabilisation via le sport, via la culture, via la musique, le théâtre, mais... tu le vois, dans les associations, il y a moins en moins de pratiquants, de participants...
c'est une réalité.
Et quand tu allumes la télé autour de toi, les chaînes d'info,
c'est anxiogène, non?
mais il faut pas être dépressif. Tu passes à l'acte. Franchement, ça fait peur.
C'est très anxiogène, c'est vrai.
C'est anxiogène, c'est anxiogène. Aujourd'hui qui attirent? Quels sont les continents et les pays qui attirent aujourd'hui? Moi, je veux pas vous lire, évidemment. Je voudrais vous entendre, mais quand on est jeune aujourd'hui, quels sont les pays dont on s'oriente pour aller faire évidemment le choix d'un avenir peut-être plus propice?
Si vous êtes dans le monde virtuel, donc les réseaux, vous avez tout un tas d'influenceurs et d'influenceuses qui vous montrent que...
Dubaï, ça.
Oui, non, pas que Dubaï, mais c'est intéressant. Ils vous montrent que dans le monde, il fait toujours beau, il y a toujours des plages, il y a un soleil extraordinaire, il n'y a pas de problème.
C'est Dubaï, ça.
C'est pas seulement Dubaï, parce que ça se généralise. Je vais prendre des exemples de pays qui sont très puissants comme Dubaï, on en parle beaucoup, puisque c'est vraiment la Jet Set Society, mais il n'y a pas que Dubaï. Vous prenez l'Afrique du Nord, par exemple, au Maroc, vous avez beaucoup de gens qui y vont et qui envoient des images extraordinaires de plages merveilleuses, d'hôtels magnifiques, de piscines à profusion. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus dans on se déporte du nord vers le sud et vers les zones les plus merveilleuses pour vivre.
Donc on a l'Afrique alors?
Pas seulement l'Afrique, le bassin méditerranéen, parce que l'Espagne est très très bien vue aussi, l'Italie ça va de soi, la Grèce, les pays du pourtour méditerranéen, l'Afrique du Nord qui se développe à grande vitesse et donc qui offre les commodités qu'on connaît en Occident. On a le phénomène Dubaï qui a émergé il y a 20 ans avec la première tour qui avait été construite pour Burj Arab et puis après ça s'est développé. Mais surtout on a aussi le Qatar qui commence à émerger, Oman, on n'en parle pas beaucoup, tous les pays du Moyen-Orient en règle générale, une partie des pays d'Asie où on y vit très bien comme la Malaisie, où il y a une insécurité zéro, c'est vous dire un peu le niveau de bien-être, une partie faible de l'Afrique de l'Amérique du Sud, parce qu'il y a toujours ce problème de criminalité qui est très très puissante, mais le Moyen-Orient, le bassin méditerranéen, l'Asie dans certaines régions, particulièrement sur les îles, sur toutes les archipels, toutes ces régions-là font rêver pour deux raisons. La première, c'est le décor de rêve, une température ambiante moyenne de 25 degrés annuels, et surtout
Vous faites un coup de projo sur les influenceurs, mais vous avez quand même beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui tentent l'aventure sur le continent africain.
Pas seulement
au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Algérie, en Maroc, en Tunisie.
Voilà.
Vous voyez ce que je veux dire?
Parce qu'il y a une croissance économique soutenue en Afrique de 5% depuis 20 ans, parce que ces pays sont en construction, donc les 30 glorieuses, c'est devant eux, et parce que l'espoir de travailler en étant rémunéré de façon assez bonne, quand vous venez d'Europe et que vous arrivez là-bas, vous êtes payé deux fois plus cher qu'en Europe. Mmh. Donc tous ces éléments-là partent de ça. Mais il faut savoir qu'en Europe, il y a aussi des pays qui connaissent ce genre de bien-être. On a la Suisse, par exemple, qui est considérée comme un paradis européen, et il faut y aller pour s'en rendre compte. On a le Luxembourg, qui est très riche aussi. C'est des pays extrêmement riches qui sont rentiers. Donc les pays rentiers qui n'ont aucun problème de développement, de ralentissement économique garantissent aussi ce bonheur. Et on a ça au Moyen-Orient parce qu'évidemment on est en pleine construction. Et l'Afrique, c'est pareil.
Vous partagez ce qu'on vient de dire, effectivement, les jeunes qui se barrent de plus en plus sur le continent africain ou à Dubaï. Dubaï, moi, ça me paraît pour les riches, quoi, plutôt.
Non, pas nécessairement. Pas au début.
Ah ouais, pas au début. Bah, il faut avoir quand même une petite manne, quand même, pour y aller.
Excusez-moi, juste un exemple. Moi, je connaissais un petit Joroto de quartier, entre guillemets Joroto, un galérien. Un mec de cité, un petit peu voyou, qui a fait un petit peu les 400 coups. Il va à Dubaï avec son petit appareil photo, il maîtrise même pas. C'est devenu un des meilleurs photographes de Dubaï. Parce qu'on lui a donné sa chance, parce que c'est ouvert. Parce qu'il avait deux codes, il connaissait la religion, évidemment. Bon, ça, il était maghrébin. Et surtout, c'est un petit peu le Darija, donc il a pu passer le Darija à l'arabe littéraire. Ça lui a facilité grandement les tâches, et comme il connaissait les codes de communication et de bienséance, il a été reçu, et bien reçu. Aujourd'hui, il a sa maison, une propriété privée, une voiture de luxe, et c'est devenu un photographe reconnu à Dubaï.
Ça s'appelle l'ascension sociale.
Tout à fait, mais à vitesse accélérée. On n'a pas
ça. À vitesse accélérée. Ici, on n'a pas ça ici.
Hein, ou dans le monde en général.
Ou dans le monde. Si, aux États-Unis quand même.
Non, aux États-Unis, il y a le rêve américain, mais c'est très surfait.
Ouais, quand même.
1 sur 2, 300 millions.
C'est vrai. Hassan.
Oui, là, on parle essentiellement des jeunes de 14 à 24 ans qui ont des problèmes de mal-être. Bon, là, aborder la question de gens issus de la diversité qui aillent entreprendre en Afrique et à Dubaï sont c'est des éléments marginaux. Mais le.
À 200 000 Français quand même qui sont européens. Oui. 200 000. Hein.
Oui, mais je dirais que lorsqu'on parle.
À Dubaï.
Non, pas Dubaï, mais je parle en Angleterre, par exemple, il y a 200 000. Aux États-Unis, 1 million, enfin, c'est vraiment une exode massive.
On parlait des Français, là.
Des Français européens.
Voilà, oui, il n'y a pas forcément des jeunes qui vont entreprendre.
À Dubaï, il y a 200 000, je crois pas.
Non, pas 200 000.
Ah oui, il n'y a pas
200 000. Non, mais il y a beaucoup de Français qui s'expatrient pour entreprendre à l'étranger, parce qu'il y a des possibilités, des facilités, puis il y a des croissances relativement importantes. Mais sur le sujet qui nous concerne, sur les jeunes de 14 à 24 ans en France, force est de constater que beaucoup de ces jeunes ont un mal-vivre. Un mal-vivre.
Oui, c'est ça, voilà.
Un mal-vivre.
C'est surtout ce mal-vivre.
Et la question, c'est de savoir ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et c'est vrai que moi, je suis assez surpris de ce que je vois aujourd'hui entre un jeune qui avait des années 80 et un jeune même des années 2000 et un jeune aujourd'hui. Il y a une grosse différence. Très très grosse différence.
On marque une pause, Hassan. On marque une pause parce que évidemment on fait signe et je vous retrouve tout de suite après 01 53 48 3000. N'hésitez pas, on vous attend au standard, chers messieurs, chères mesdames. 01 53 48 3000. Justement, est-ce que vous pensez à l'avenir de vos enfants? Parlons-en. Est-ce que vous souhaitez qu'ils fassent leur vie bien tout simplement à l'étranger? Et où? Justement, où beaucoup parlent de retour au bled, beaucoup parlent du continent africain ou à Dubaï ou ailleurs aux États-Unis. Bref, faites-nous en part, on vous attend et nous, on va aborder les sujets qui continuent de secouer la journée.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Avec Gamal Abina, enfin avec Hassan Benbarek et enfin, oui, Philippe Nadji Bouriaki. Je voudrais juste vous faire réagir, messieurs, un petit tour de table, vous savez, concernant cette sécurité qui a été renforcée depuis ce matin. Parce que, figurez-vous, dans une quarantaine de lycées et collèges en France, après des menaces sérieuses ou pas, on va faire le tour de table, d'attentats et de décapitations à partir de 11h. Ça veut dire dans, 35 minutes. Des messages ont été reçus hier soir dans une vidéo insoutenable qu'on va pas diffuser. Gamal Abina, à prendre au sérieux ou pas?
Bah, j'ai envie de dire que si on doit sécuriser, c'est bien, mais là, je pense qu'il y a une surenchère parce qu'effectivement, il y a une atmosphère délétère, parce qu'il y a des conflits à droite et à gauche, parce que on a le sentiment en général, on parlait tout à l'heure de la jeunesse qui va pas bien, qu'on leur rajoute à chaque fois des couches, je pense que ça participe pas à un bien-être. Après, c'est vrai que la position de la France par rapport à l'Ukraine n'arrange pas les choses. Et j'ai envie de rappeler juste une période où la France était vraiment peinarde pendant quasiment 12 ans. Mmh. C'était l'époque Chirac.
Oh, Chirac, ouais.
Où il avait une politique internationale équilibrée et où la France n'a jamais connu le moindre attentat, si ce n'est le résiduel de Mitterrand en 95. On a eu 12 ans de tranquillité parce que, effectivement, la France s'est levée, comme De Gaulle le faisait très bien. Et quand on a des hommes comme ça d'État qui ont une posture équilibrée et qui ont un discours pour assagir les choses, pour calmer le conflit, parce que le but c'est de sortir les conflits, à ce moment-là, les attentats n'existent pas. Aujourd'hui, c'est de la provocation, mais je vous rassure, hein, si on annonce qu'on va faire l'attentat en règle générale, avec les mots magiques qui font peur, terrorisme, décapitation, on comprend que c'est beaucoup de baratin.
Oui, beaucoup de baratin. Hassan Benbarek,
oui, pour aller dans la lignée de Gamal Abina, si une organisation ou si une personne a l'intention de commettre un attentat, je ne pense pas qu'il va en faire la promotion. Donc je pense que là, il y a une tentative d'instaurer un climat à l'approche des Jeux Olympiques à céder la terre, donc je crois que c'est une manipulation. Alors la question, c'est que je pense qu'il y a des services de renseignement qui font assez bien leur travail et que d'ici quelques jours, on aura une réponse d'où vient ce type de provocation.
Philippe Ndiboyaki.
Effectivement, on a des forces ennemies hostiles à la France. Ah ouais, mais quand t'es hostile à notre nation, t'es forcément notre ennemi. Hein. Il y a pas de mots qui vont essayer de déstabiliser le pays dans tout son ensemble, y compris sur des cyberattaques. On voit que les sites institutionnels sont régulièrement attaqués et testés. Et jusqu'à présent, nos services réagissent bien de cyberprotection. Mais on ne sera pas à l'abri, en tout cas pour les JO, de subir des choses ultra-violentes. Là, il y a des courriers qui ont été envoyés directement à des enfants. Non, ultra-violente. Non, dans la cyberattaque.
Oui, oui, dans la cyberattaque.
Ouais, ah oui, parce qu'ils vont monter d'un cran à chaque fois. Et donc, déjà, premièrement, à toutes celles et tous ceux, surtout les entreprises qui seraient hackées, la consigne première que le gouvernement passe, c'est surtout ne payez pas de rançon. Parce que il y a que 40% lorsque vous êtes bloqué et que vous payez, il y a que 40% qui sont débloqués, c'est-à-dire qu'il y a 60%, vous avez une chance, vous avez deux chances sur trois de que votre serveur ne fonctionnera toujours pas. Donc ne payez pas, ça c'est un premier point. Et si vous payez, vous continuez à engranger la mafia. Je comprends les entreprises et les institutions qui ont envie de fonctionner rapidement, mais on reprend le vieux système, papier, stylo. Fax, téléphone, donc qu'on se dispense pas de ça et surtout qu'on reste tous soudés dans les épreuves qui vont nous arriver.
Allez messieurs, vous savez quoi, il faut qu'on avance parce que j'aimerais bien qu'on parle, vous savez quoi, de cet échange clash sur clash, mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est le feuilleton Louis Boyard. Ça fait déjà à peu près un peu plus de 7 jours qu'on parle que de Louis Boyard. Louis Boyard qui tweet depuis, vous savez, les fameuses émeutes à la Courneuve. Eh bien, il n'a pas arrêté évidemment de taper sur la police, taper sur un certain nombre d'institutions. Je voudrais qu'on comprenne. Regardez l'ambiance qui s'est déroulée. C'était avec Louis, l'échange très musclé d'ailleurs entre Louis Boyard et Barbara Lefebvre concernant vous défendez la racaille. Et ensuite, on réagit parce que là, il faut qu'on en parle quand même. Écoutez, c'était chez les GG.
Un élève crache sur un prof ou le menace, c'est parce que l'institution n'est pas assez respectable, donc que ça justifie qu'on nous crache dessus ou qu'on nous parle mal.
C'est-à-dire là,
que
vous quand mélangez tout.
Ah ben non,
mais
parce
oui,
que
si.
Vous nous
vous
expliquez.
Êtes en train de tout mélanger.
Non, vous nous expliquez que c'est normal que les jeunes respectent pas la police puisque l'institution n'est pas respectable.
Attendez, non, attendez, vous êtes en train.
Ah ben non, c'est vous qui comme vous institutionnalisez
vous racontez
tout
n'importe quoi.
Et que vous systématisez tout, c'est votre discours qui est inédit.
Alors, réponse de Louis Boyard. Premièrement, j'ai jamais demandé à ce qu'on crache sur les professeurs ou sur la police. Donc je vois pas d'où est-ce que vous sortez le parallèle et votre exemple. Ensuite, deuxièmement, je ne justifie rien.
Vous dites qu'elle n'est pas respectable.
Je ne justifie rien, je suis simplement en train d'expliquer et vous ne pouvez pas le nier. Il y a un problème de confiance et de rapport entre la police et une partie de la population.
Non, c'est simplement ceux qui ont un problème avec la police.
Attendez, si je peux terminer sur quelque chose.
Non.
Sincèrement, je vous demande pas votre avis. Je demande votre avis aux jeunes des quartiers.
Non parce que mais les jeunes des quartiers
majoritairement
ils pensent pas comme vous.
Non,
mais parce que quand on fait des études etc. ils disent le contraire de ce que vous dites.
C'est excellent, monsieur.
Vous défendez des gens qu'on prenait.
Monsieur Truchot, c'est incroyable parce que vous avez des études, vous avez des rapports dans votre bureau. Mais quand est-ce que vous venez dans un quartier, bah
vous
parlez
bah
avec
vous,
des
vous,
jeunes.
Pardon,
oui, vous discutez peut-être avec les délinquants, mais nous, on discute aussi avec les jeunes des quartiers qui en ont marre d'être stigmatisés par des gens comme
madame,
vous.
Je vous laisserai.
Elle change très musclée, hein, vous avez vu, chez les GG, chez RMC, chez nos amis qu'on salue. Ça chauffe, hein, ça a bien chauffé entre Louis Boyard et Barbara Lefebvre. Alors, franchement, quoi penser, Hassan Ben Barak?
Moi, je pense que bon, Monsieur Boyard est donc député LFI, qu'il est dans une stratégie de captation de l'électorat des banlieues. Et donc, sur cette question des rapports jeunes police, qui est une question qui, à titre personnel, pour moi, date de plus d'une quarantaine d'années. Hein, ça a toujours été très dur. Donc, étant moi-même né dans ces quartiers-là, ayant milité pendant plus de 40 ans, donc j'ai pu voir toutes ces tensions, en tout cas, tous ces rapports, ce rapport difficile entre les jeunes et la police, mais qui est aussi dû au fait que beaucoup de policiers dans les brigades se comportent aussi comme des mecs comme si c'était une équipe, une bande, quoi, qui interpelle d'autres jeunes. Donc, je pense que M. Boyard est dans cette stratégie de captation de l'électorat, comme avec LFI.
C'est pas dangereux?
Qu'est-ce qui est dangereux?
Le fait de tenir ce discours-là. Est-ce que c'est responsable de la part d'un député?
Il y a des gens il y a beaucoup de politiques qui sont dans l'excès verbal. Donc là, il est dans une stratégie qui est très claire, c'est de se dire, je me positionne avec les jeunes des quartiers, avec les jeunes des banlieues, d'accord? Comme au même titre, il y a LFI sur la question de la Palestine a clairement choisi son positionnement. Donc il y a une cohérence dans la démarche de Monsieur Boyard. Donc Monsieur Boyard ainsi que tous les députés LFI sont dans cette stratégie de capter l'électorat des quartiers.
Voilà. Kamal Abina.
Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut arrêter. Enfin, il n'a pas dit ce qu'on lui reproche. C'est toujours facile. Il défend les gars du quartier, donc c'est un anti-flic. Ce genre de caricature est insupportable. Dans la police, il y a des gens qui font bien leur travail, et il y a aussi des voyous. Et ces voyous-là, on fait semblant de pas les voir. Donc, je veux bien entendre dire que depuis 40, 50, 60 ans, aller jusqu'au 17 octobre.
La quarantaine d'années depuis.
Je vais y arriver. Non, mais
j'ai dit depuis les années 80.
60 ans depuis le 17 octobre, parce qu'il y a quand même un massacre de masse à ce moment-là d'Algériens à Paris, par des policiers français, dirigés par Papon sous De Gaulle. Je vais bien tout entendre. Il y a un problème avec la police française. Il y a l'idée de la peur du gendarme qui est réelle. On l'a vu avec les gilets jaunes. C'est-à-dire que quand on dit non, si vous n'êtes pas voyou, vous n'avez rien à craindre de la police, c'est un mensonge. Il y a des policiers qui vous emmerdent quand vous avez rien fait. Moi, j'étais contrôlé toute ma jeunesse. On n'était pas du tout des délinquants. On marchait droit, on tenait la porte des vieilles dames. Mais ça n'empêchait pas d'être contrôlé, d'être violenté, d'être agressé, d'être insulté de sales bécots. Ça, je l'ai entendu. Donc, faut arrêter de délirer. Ensuite, moi, j'ai horreur d'entendre une Barbara Lefebvre qui n'a rien à voir avec nous. Elle n'a jamais mis les pieds dans un quartier. Ces gens qui sont des théoriciens des quartiers commencent à me gaver. Pourquoi ils ne reçoivent pas les gens de quartier plutôt que de parler à leur place? Pourquoi ils se prennent pour le grand frère ou une grande sœur qui vont donner des leçons? Eh bien, je veux dire simplement, toute la police n'est pas mauvaise, sauf qu'en France, on a une stratégie qui est de gestion de l'État par des mesures policières qui sont coercitives. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez en Angleterre, les bobbies, comme on les appelle, les policiers anglais, sont très courtois. En France, malheureusement, souvent, des policiers se comportent comme des cow-boys et ne sont pas courtois. Pas tous. Quand on dit tous, à ce moment-là, c'est une généralisation ridicule. Mais je vais vous donner, juste pour finir mon propos, une petite lecture de l'histoire, vous allez voir. On a créé la BAC récemment, Brigade Anticriminalité. Sous-entendu, quand ils vont dans les quartiers, ils ont des criminels. La criminalité, c'est un crime. La délinquance, c'est autre chose. On n'est pas dans les mêmes institutions. Eh bien, ils ont, à l'époque, créé une institution qui va vous faciliter. Est-ce que vous savez d'où vient le mot « bavure » ? Quelqu'un sait? Personne. Bavure, ça vient d'une institution policière qui s'appelait la Brigade Anti-Agression et Violence. Et c'est une brigade policière française qui a été créée pendant la collaboration pour écraser ceux qui se manifestaient un peu trop d'origine algérienne. Non, c'était créé pendant les années 60 contre les Algériens. Donc cette brigade a existé et la bavure.
Je l'avais déjà lu ça.
Voilà. Et la bavure, ça vient de ça. Donc personne ne sait pour dire qu'il y a une perception de la police qui malheureusement est très souvent perçue comme dans la répression. Donc aujourd'hui, quand les jeunes du quartier vivent mal la police, ils ne sont pas 3-4. Hein, c'est une ambiance générale qui donne le sentiment que quand un policier les voit, ça se passe mal.
Philippe Ndjiboyaki.
Quand Louis Boyard tweet et que les gens de la France Insoumise globalement tweet la police tue. Ah, si c'est pas une incitation à détester sa police, je sais pas comment ça s'appelle. Alors ouais, ils le font d'ailleurs de manière assez électoraliste, en pensant que capter le vote des banlieues qui a un ressenti de discrimination totale et de contrôle au faciès
totalement justifié,
réel, donc
C'est vrai, il y a un vrai problème de discrimination dans les banlieues.
Non, mais il y a un vrai problème de discrimination. Attendez, on va se dire les choses entre nous.
Allons-y.
Quand un véhicule arrive, qui se fait caillasser, un véhicule de pompier, de SAMU,
c'est marginal.
Non, c'est pas marginal.
C'est marginal.
Non, justement. Il faut arrêter ce discours gauchiste d'œillère sous les yeux, parce que c'est ce discours.
Et c'est pas un discours gauchiste.
Laisse-moi finir.
Non, c'est pas un discours gauchiste.
Je t'ai pas interrompu. Moi, j'interromps jamais les gens. J'écoute ce qu'ils disent. Je suis d'accord.
Parle, vas-y.
Mais c'est important. Parce que ce que vous ne vous rendez pas compte, là, que le Rassemblement National reconquête. Dupont-Aignan, toute cette droite extrême et Ciotti, etc., sont aux portes de la victoire, aux portes du pouvoir. Et une fois qu'ils vont avoir le pouvoir, ça va être catastrophique, ça va être ultra violent. Et on sait pour qui ça va être violent. Donc on va arrêter de se casser des choses et arrêter de ne pas dire les choses, parce que on laisse le terrain de la réalité à ces gens-là. Il faut dénoncer les gens.
Bah, ça, vous l'entendez, ça, c'est aussi une réalité.
Non, mais ça, c'est une réalité. Lorsqu'il dit que tout simplement le fait qu'il y ait des problèmes dans ces quartiers et que ça soit monté en épingle, bon, puisque moi, je peux dire à titre personnel que je trouve que les problèmes qu'il y avait dans les années, on va dire 90, ouais. de début 2000, mais on va dire 80-90, il y avait beaucoup plus de violence dans les quartiers qu'aujourd'hui. il n'y avait pas d'internet. Les gars étaient en vase clos dans les quartiers, donc il y avait ce qu'on appelle des équipes, des gens, et ça rigolait franchement pas.
Merci de rappeler ça, Hassan, il a raison. Important. C'est très important.
C'est très important. Bon, à l'époque, il y avait même ce qu'on appelle le renseignement, les RG, le renseignement
territorial. Sauf qu'aujourd'hui, c'est amplifié par les médias, les réseaux.
C'est amplifié par les médias. Maintenant, vous avez un petit gars.
Allez, je lance la pause. On me dit qu'il faut, elle va partir toute seule sinon. On lance la pause et on se retrouve tout de suite après. Bien sûr, je vous redonne la parole. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Avec Gamal Abina, les informés, avec Hassan Ben Barak et Philippe Nadjiboyeki. Je vous redonne la parole à Hassan Ben Barak parce que vous disiez quelque chose, évidemment, le parallèle avec les années 90 où c'était beaucoup plus violent qu'aujourd'hui. Vous apprêtiez à nous donner les éléments.
Non, mais dans les années 80-90, la situation dans les quartiers, il y avait beaucoup plus de violence. Bon, sauf qu'en fin de compte, c'était pas mis à la loupe avec les médias. Donc on n'en parlait pas forcément dans les médias comme on en parle aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il y a une volonté de certaines forces politiques de criminaliser ces populations dans ces quartiers. Bon, alors on évoque différents trafics, il y a aussi la question de l'identité qui est importante derrière. Mais pour rebondir sur ce que tu disais il y a un instant, François,
Philippe Ladjine, Boyaki.
Le fait que le Front National de dire en fin de compte faut faire attention parce que si on cautionne tout ce qui se passe dans les quartiers, forcément on va faire le jeu du Front National. Du Rassemblement National, excusez-moi. Et que si le Rassemblement National venait au pouvoir, ça risque encore de mal se passer. Bon, bah écoutez, si le Rassemblement National doit venir au pouvoir, il viendra au pouvoir. Donc la situation, on verra concrètement comment ils vont gérer la problématique dans les quartiers.
J'aime bien comment vous dites ça de façon sereine. Voici de venir au pouvoir,
Non, mais voilà, mais c'est important ce que je veux dire.
Comme si c'était normal.
Voilà. Mais s'il doit venir au pouvoir, mais écoutez, s'il doit venir au pouvoir.
Vous pouvez pas dire ça non plus.
Je dis que s'il doit venir au pouvoir, il viendra au pouvoir.
Ouais, mais bon, vous dites
et
ça comme
s'il
c'est...
doit gérer la situation dans les quartiers, il la gérera comme il pense, au mieux, comme il pense pouvoir la gérer. Mais moi, je peux vous dire une chose. C'est que les gens qui sont dans les quartiers n'ont pas peur. N'ont pas peur. Et si ça doit exploser...
La police,
n'ont pas peur.
Des institutions.
Non,
des répressions.
N'ont pas peur de la répression. N'ont pas peur du Rassemblement National. Et si ça doit partir, comme disent les jeunes, en cacahuète, ça partira en cacahuète. Donc, entre la posture qui est celle des hommes politiques... Entre la posture qui est celle des hommes politiques qui jouent avec le feu, la posture qui est celle des hommes politiques, et la réalité de terrain, je pense qu'il y a un moment, les masques vont tomber. Alors maintenant, lorsque je dis que la violence était beaucoup plus importante dans les années 90, début 2000, mais entre 80 et 90, c'est que à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones.
Donc
les personnes étaient dans les
cités.
Les types étaient, les gens étaient dans les cités. Donc dans les cités, il y avait une hiérarchie.
Oui, c'est vrai.
D'accord. Il y avait des gens qui étaient constitués, si vous voulez, en groupe, comme les jeunes l'appellent maintenant, en équipe. Donc il y avait une mentalité. Donc il y avait aussi une initiation. Donc personne pouvait arriver à cette époque, jouer, je dirais, un peu un rôle de ce qu'ils appellent les jeunes. J'emploie les éléments de langage des jeunes. Un show, un scarlat, comme ils disaient, parce qu'il y avait une initiation. Donc il y avait un palier. Aujourd'hui, vous avez des charlots.
C'est l'anarchie aujourd'hui.
Non, c'est pas l'anarchie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est autre chose.
Il y a moins de salariés de banque.
Vous avez beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire que, par exemple, prenons un peu le mouvement du rap, par exemple. Du rap qui a émergé un peu dans les années.
En 90, c'est gangsta rap, par exemple.
Dans les années 80. Bon, moi-même, j'étais un des tout premiers producteurs de rap il y a très longtemps. Et prenons le mouvement du rap. Dans la hiérarchie des cités, lorsque vous aviez un rappeur, c'était considéré au début des années 80 comme un clown, un charlot, un type qui n'avait pas de couilles pour faire ce qu'il avait à faire pour s'imposer dans les quartiers. Parce qu'il y avait différents types pour s'imposer dans les quartiers. Vous aviez une distinction très simple entre les gens qui étaient sérieux, qui travaillaient, qui bossaient. Vous aviez les gens qui étaient dans les activités un peu criminelles, on va dire. Okay. Et donc il y avait un respect, chacun était dans son coin, il y avait une initiation. Donc et les rappeurs, c'était un peu les charlots de service, voilà. Maintenant donc les rappeurs, tous ces gens-là, moi ce que je reproche un peu à tous ces gars-là, tous ceux qui font du rap et les jeunes sont fascinés par ces gens-là, c'est le fait qu'ils parlent, je veux dire ils utilisent des mots, des expressions, une sorte de dégradation si vous voulez des éléments de langage, du verbe et tout. Et si vous voulez, les jeunes sont fascinés par ces rappeurs, alors que beaucoup de ces rappeurs jouent les durs, jouent les scarlats, font des clashs, je me bats, je donne un coup de poing, alors qu'en fin de compte, c'est pas des durs, comme on va dire, c'est pas des durs. Mais en fin de compte, même dans la hiérarchie des cités, n'étaient pas considérés. Ah, si, et ces jeunes-là, ces acteurs-là, ce rap, tous ces rappeurs-là, tous ces gens-là, ont distillé une façon de parler irrespectueuse. C'est des gros mots, c'est des langages, c'est une dégradation. C'est très important.
Faisons un tour de table, parce que sans le savoir, on parlait justement d'insécurité dans les quartiers populaires. Je voulais qu'on reprenne la question de narcotrafic, des drogues, etc., notamment à Marseille. Et sans le savoir, vous avez emprunté le terrain, évidemment, et vous avez exposé de façon limpide comment ça se passe aujourd'hui. Et à l'époque, Gamal Abina et ensuite Philippe Nadjibou.
Vous savez, il y a un phénomène qui était observé dans les années 90 avec une France qui s'installait dans la crise, c'est qu'on avait abandonné certains quartiers. Alors, il parle beaucoup de quartiers soi-disant qui sont en rupture avec la République, mais c'est la République qui les a abandonnés. Plus d'institutions, plus de systèmes sociaux, plus de soutien scolaire, plus rien de tout ça. Donc, quand on abandonne des quartiers à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes, qui vont recréer un écosystème de reproduction de l'échec, effectivement, vous avez de la production de violence et tous les corollaires qui vont avec. Par exemple, dans les années 90, on a laissé l'islamisme politique s'installer dans les quartiers parce qu'on se disait ils vont bien gérer.
On l'a pas laissé.
Si, on l'a même encouragé. Ils disaient ils vont bien gérer. Ça a été largement encouragé.
Mais l'islam politique, en tout cas, ce qu'on appelle les salafistes, en tout cas.
Mais juste, je finis mon propos rapidement. Il y a plusieurs vagues. 89 en Algérie.
Ça, c'est un débat très large.
Non, mais 89 en Algérie, le fils arrive aux portes du. Enfin, ils sont déjà au municipal. 90, ils montent en puissance et ils commencent à envoyer des gens qui commencent à apprécier la dawa. Ça, c'est un phénomène. Après, le fils était écarté en 91, c'est les Tunisiens qui arrivent. Après, c'est les Saoudiens. Enfin, c'est une multiplication de prédicateurs qui vont se relayer toutes les années 90. Donc, les quartiers sont gérés autour des phénomènes sociaux et religieux et sont abandonnés par la République avec des écoles où des profs, très souvent, n'étaient jamais présents. C'était devenu des garderies. Donc, l'échec scolaire programmé avec des jeunes qui ne croient pas en l'avenir. C'est un phénomène qu'on connaît aujourd'hui. Donc, quand on voit ça, effectivement, vous avez quoi? Vous avez la place pour la délinquance, pour une forme de criminalité, pour la drogue, on va en parler, effectivement, et pour un laisser-aller. Mais en 90, c'était pire que tout parce que l'État n'avait pas pris conscience du mal qu'il avait laissé.
Philippe Nadjibouyaki.
En tout cas, l'année dernière, 8 000 armes ont été saisies, dont 300 armes de guerre. Je ne sais pas si les années 90 c'était plus violent que maintenant.
Si, c'était la Yougoslavie, c'était pire.
Visiblement.
Donc, vous êtes en train de dire qu'il y a
une hausse considérable. Et cette hausse considérable, elle renforce le sentiment, elle renforce l'insécurité dans un premier temps, plus le sentiment décuplé d'insécurité, relayé en boucle sur des médias mainstream qui sont des chaînes d'infos 24h/24. C'est-à-dire que t'as pas de répit. Avant, tu regardais le journal à 13h, à 20h, t'avais 2 heures d'angoisse dans ta journée. Là, maintenant, t'as 24 heures d'angoisse dans ta journée.
C'est clair.
12 fois plus. Donc, ça emmène à un sentiment beaucoup plus fort qui se traduit dans les urnes. Et y compris dans les quartiers, ça vote largement Rassemblement National. Donc, moi, je voudrais qu'on arrête avec ce discours de dire, bon, il n'y a pas trop, ça va, c'est mignon, c'est sympa. Non, c'est pas mignon, c'est sympa. Il faut attaquer le mal à la racine. C'est clair, le premier mal, il est social. C'est ce qui engrange des gens en marge de la société. Si tu es en marge, bah forcément, ils vont aller trouver le bonheur ailleurs. Et ça, on a... Et il a raison, Hassan, sur les politiques. Ils ont le pouvoir d'agir localement pour aider le développement local. Quand on choisit de consommer plutôt local que de faire venir des marchandises de l'étranger, mais à contrario, bah, tes véhicules Renault, bah, tu vas pas pouvoir les exporter à l'étranger. Donc il y a aussi un système de décroissance bénéfique qu'il faut aussi avoir. On n'est pas obligé de surconsommer et de prendre jeté, comme les fameux modes vestimentaires où ton truc il dure pas plus d'une saison et au bout d'une saison t'es démodé, donc faut t'en acheter une autre. Donc ça pose un réel problème. Et donc, tous ces jeunes-là, je vais te prendre un exemple très simple.
Alors, on reprend juste la suite après, parce qu'il est 10h50 et c'est le Quoi de Neuf. Je le lance tout de suite avant qu'on soit en retard.
Les informés. Le Quoi de Neuf,
et c'est le retour de Pascal Boniface. Bonjour, mon cher Pascal Boniface, c'est le retour. Quel plaisir de vous retrouver.
Bonjour, Adi.
Vous nous aviez manqué, mon cher Pascal Boniface. Bon. Ça va, tout va bien?
Oui, tout va bien.
Enfin, le directeur, géopolitologue et le directeur fondateur de l'ERIS. Eh bien, vous allez nous parler, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur, le Quoi de Neuf, concernant le cessez-feu et le projet des USA. Allons-y.
Oui. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, donc le ministre des Affaires étrangères, a annoncé que les États-Unis avaient déposé devant le Conseil de sécurité une résolution demandant un cessez-le-feu sur Gaza et la libération des otages. C'est tout à fait nouveau parce que jusqu'ici, à chaque fois qu'il y avait un projet de résolution en ce sens, les États-Unis mettaient leur veto. Et les États-Unis étaient devant une grande contradiction. Ils demandaient à Israël de faire preuve de mesure, d'épargner les civils, tout en fournissant une aide militaire, en fournissant les bombes et en bloquant toute résolution portant sur un cessez-le-feu devant le Conseil de sécurité. Et il y a un changement, c'est que Chuck Sommers, qui est le sénateur qui lead et qui est le chef de la majorité démocrate au Sénat, qui est juif lui-même, a fait une déclaration spectaculaire disant qu'en tant que juif, il ne veut plus supporter que Netanyahou soit le premier ministre d'Israël. Il a appelé à des élections en Israël en disant que Netanyahou mettait en danger Israël, qu'il faisait cela en soutien à Israël, et que si on ne faisait rien, Netanyahou allait faire d'Israël un État paria. Et les démocrates voient très bien que la jeunesse se sent très concernée par ce qui se passe en Palestine, à Gaza, et qu'elle n'est plus du tout pour un soutien inconditionnel à Israël. Et donc on peut penser que ce projet de résolution, c'est à la fois aussi par rapport à l'offensive majeure annoncée sur Rafah, qui serait une nouvelle catastrophe humanitaire si elle est lancée. Imaginez lancer une opération militaire dans une ville de 60 km² où il y a 1 500 000 résidents. Ça aurait été un massacre. Les Américains veulent éviter cela. Et donc il y a chez Biden à la fois la volonté de ne pas se couper totalement de la jeunesse et aussi quand même de penser à l'image des États-Unis dans le monde, parce que ce soutien inconditionnel à Israël vient empêcher les États-Unis de faire des leçons de morale ou de promotion du droit international par rapport aux pays du Sud global. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'Israël va entendre cela? Israël n'est pas forcé de le faire, mais en tous les cas, il peut y avoir un débat en Israël. La politique de Netanyahou met en danger le soutien bipartisan des États-Unis à Israël.
Bravo, mon cher. Parce que, bon, oui, il est bon.
Très bon.
Ah, très excellent. Excellent billet, mon cher Pascal Boniface. Hein.
Ouais.
Le retour, il arrive en force, là, mon cher Pascal. Hein. Ah oui, là, vous faites un retour en force, là. Bravo, bravo. À la semaine prochaine, sans faute.
Avec grand plaisir.
Partagez. Bonne journée également. Il est bon. Hein. Bon, ouais. C'est vrai. Ouais. Beau billet. Bon, Philippe Najiboyaki, parce que non, je lui ai coupé la parole, justement. Allez-y.
Ouais, non, mais.
Vous avez perdu le fil.
Non, non, je ne suis pas perdu, loin de là. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans ma ville, il y a un centre de formation, Léa CFI, qui est dirigé, qui est en fin de compte une école privée, j'ai découvert ça, un lycée professionnel privé, géré par la CCI 75. Et dans cette école, en cœur des quartiers populaires, ils prennent en bac pro les enfants de la deuxième chance, troisième chance, tout ce que tu veux, tout ce l'enseignement général ne veut pas recevoir et ne peut pas recevoir. Et ils les forment sur des métiers sous tension. Mécanicien poids lourd, génie climatique, etc. Figurez-vous qu'ils ont décidé de supprimer pour Léa, CFI, les trois, hein, celui des Gobelins, Gambetta, pardon, Orly et un autre Orgeval, je crois. Les trois, ils vont supprimer les bacs pro pour l'année prochaine parce qu'ils considèrent que c'est des filières qui sont pas assez rentables.
Voilà.
Ça veut dire, et écoutez-moi bien, ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai fait faire un stage et je remercie le président de la STAF 94, qui est une reprise de transport. Très beau parcours. Il a commencé tout seul il y a 30 ans. Aujourd'hui, il a 650 camions, 1200 employés. Enfin, c'est un truc de dingue. Il a dit à mon fils, puisqu'il voulait faire un mécanicien poids lourd, il a fait un stage. Il lui a dit, je suis prêt à te prendre un contrat d'apprentissage. Et je te le dis dès maintenant, il a 15 ans le môme, hein, quand tu finiras, diplôme ou pas diplôme, je t'embauche à 2000 euros net pour 35 heures par semaine. 2000 euros net. Et on vient aujourd'hui nous dire qu'on va fermer ces filières d'exception qui forment des gens qui ne sont pas faits.
Ouais. Faut que je rende l'antenne.
Alors, oui,
vous avez raison. Non, mais merci pour ce cas de figure.
Ouais, c'est clair. Mais là
c'est très significatif.
Là, on aborde un exemple qui est sur la formation et le manque de subventions. Voilà, bon, ça, c'est quelque chose de totalement récurrent. Mais lorsqu'on se projette, lorsqu'on a une vision totalement globale de la situation dans les quartiers depuis 40 ans, c'est que les principaux responsables sont quand même les politiques. Pourquoi ? Parce que pendant des années, chaque fois qu'il y a eu des tentatives d'organisation des forces vives dans les quartiers, les politiques ont toujours trouvé une combine pour arrêter ou criminaliser l'émergence de forces vives dans ces quartiers-là.
Gamal, il faut que je rende l'antenne, hein, sérieux. Vraiment, on arrive au thème de cette émission, Hassan, hein, c'est pour ça. Hein.
Il faut en parler.
Mais on pourrait en faire deux heures là-dessus.
Simplement, c'est pour ça qu'il faut aborder la question des liés, mais on en abordera. Mais je vais laisser la parole à Gamal.
Non, mais il y a plusieurs éléments qui ont été donnés. Le décrochage scolaire qui conduit à l'échec qui conduit à ne pas pouvoir travailler. Et je rappelle juste un truc, c'est qu'en 90, on formait encore des tourneurs-fraiseurs en France. C'est vous dire un peu le décalage entre la réalité du travail et la réalité de la formation.
Allez, on rend l'antenne. Merci, Hassana. Il faudra des heures et des heures d'émission là-dessus.
Non, c'est pas ça, c'est que aborder la question du trafic. Bon, ce qui était important.
Mais on l'a abordé quand même,
Ce que tu devais aborder sur la
question. On l'a abordé. Merci, monsieur. Merci, Hassan Benbarek. Merci à Philippe Lajibouriaki. Merci à Gamal Abina. Merci à Fodil. À demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.